oui, il m'avait pris un peu pour une folle en me disant, mais comment tu vas prendre un job plus bas, parce que c'était vraiment ça. Et c'était ça. Mais oui, mais c'est juste en ce moment donné, et parce que j'en avais envie, et parce qu'après, de toute façon, je savais que j'allais rebondir et que j'allais faire autre chose.
Bonjour à tous, je suis Rémi Senlis et vous écoutez La Méthode des Patrons. Aujourd'hui, le travail prend une place importante dans nos vies. Vous êtes sûrement débordé par les mails ou vous avez du mal à trouver l'équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Vous êtes peut-être étudiant et vous voulez mener au mieux votre future carrière. Grâce à ce podcast, vous allez recevoir les conseils des plus grands dirigeants français afin de gérer et faire avancer au mieux votre carrière. Aujourd'hui, je reçois Caroline Gaille, directrice générale d'American Express France. Caroline, bonjour.
Bonjour.
Pour compléter cette introduction, je vous propose un petit questionnaire pour vous présenter à nos auditeurs. Vous pouvez répondre du tac au tac. Alors, pour commencer, votre lieu de naissance.
Neuilly.
Les études que vous avez faites.
Donc, des études d'économie et de mathématiques à Dauphine et ensuite une école de commerce, l'EDEC.
Les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé.
Deux entreprises, mais trois pays. La Sopexa. En Irlande, la Sopexa en Angleterre et ensuite American Express en France.
Votre passion en dehors du travail?
Mes enfants qui sont encore jeunes et qui me prennent beaucoup de temps.
Votre lieu de vacances?
Ouh, beaucoup de pays, j'adore voyager.
La personne que vous admirez?
Ouh, alors du tac au tac, une personne, Barack Obama.
Et enfin, la plus belle fiche de paye que vous ayez eue?
Ça c'est confidentiel, je ne dirai pas.
Alors maintenant qu'on vous connaît un peu mieux, on va pouvoir parler communication. American Express, comme son nom l'indique, est une entreprise américaine. Le feedback y est très important. Pour commencer, c'est quoi un bon feedback ?
Alors, donc en effet, nous, le feedback, ça fait partie des valeurs très importantes. Un bon feedback, c'est lorsque déjà, il faut trouver le bon moment pour le trouver, c'est-à-dire que il faut que la personne qui va le recevoir et la personne qui le donne, il y a le travail des deux côtés. Et un bon feedback, c'est quand il est appuyé sur des faits et qu'il est donné dans le sens de pour s'améliorer. Donc c'est ça qui est important, et c'est aussi important de le faire souvent, quand même rapidement après que le fait se soit passé, parce que ça permet de revenir rapidement dessus et de se mettre d'accord sur est-ce qu'on avait un moyen de faire différemment.
Donc par exemple, pour être concret, il y a certaines personnes qui nous écoutent qui parfois peut-être ont des choses négatives à dire à quelqu'un. Comment il faut procéder dans ces cas-là?
Alors déjà, on va être très concret, il ne faut pas forcément dire « tu as dit cela ». C'est dans cette situation, si tu t'imagines par exemple en ayant été dans la position de celui qui reçoit l'information, il faut s'assurer qu'on ait la confiance d'abord, on est dans un cadre bienveillant. Mais ensuite, il faut être très clair sur voilà, la façon peut-être dont tu as dit cela, ça a pu être perçu de telle ou telle chose. Donc, il faut être concret sur les éléments. Donc, est-ce que tu te rends compte que quand tu as dit cet élément, ça a pu être perçu comme une critique très directe ou une remise en cause de la personne ou ça a pu l'humilier? Et est-ce que tu penses qu'il y aurait peut-être une autre façon de faire? Voilà. Donc, être dans un cadre bienveillant, appuyer sur un fait, mais faire bien attention aux mots qu'on utilise.
Le cadre bienveillant, c'est nous-mêmes qui le créons ou c'est le moment qui est propice pour en parler?
Alors, il faut trouver le bon moment de le faire. Ça ne se dit pas entre deux portes dans un couloir. Il faut trouver le moment dans une réunion à deux. Et il faut s'assurer de dire, voilà, j'ai vu quelque chose qui, me semble-t-il, pourrait être perçu négativement, et aussi pour toi, ton image et pour le travail en équipe. Donc il faut le mettre dans le cadre, expliquer pourquoi on le considère comme un élément sur lequel il faut s'améliorer.
Vous, personnellement, vous en recevez aussi des feedbacks.
Tout à fait.
Même si vous êtes directrice générale, qu'est-ce que ça vous a apporté, ces feedbacks, dans votre carrière, et qu'est-ce que ça vous apporte encore?
Alors donc moi, j'en demande souvent. Hein, déjà, donc avec mes équipes, souvent je leur dis, alors pas tout le temps, mais quand même très fréquemment, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui du coup en fait vous a gêné? Parce que souvent en fait on peut faire des choses, on a une bonne intention, mais c'est pas perçu ainsi. Et donc si on le dit pas, si on le sait pas, on peut pas le corriger. Donc le feedback c'est important, et moi ça m'aide. Par exemple, c'est un petit détail mais qu'on m'a donné récemment, parce que je demandais justement... Est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent que je fais ? Il me disait, ben oui, quand tu écris des Slack, donc c'est notre messagerie interne, tu écris en majuscule, du coup, ça me stresse. C'est vraiment bête.
Oui, hein, c'est.
Et alors
c'est
que
un
moi,
détail.
En fait, c'est parce que je mets pour la première lettre et que j'ai coincé la touche et que je n'ai pas fait attention.
Ouais.
C'est vraiment un détail. Et ben en fait, sans m'en rendre compte, alors qu'il n'y a aucune intention de ma part, je crée du stress sur la personne qui croit que mon message est urgent ou qu'il faut que j'y réponde immédiatement. Donc voilà, ça c'est vraiment un détail, mais ça montre l'importance du feedback. Si cette personne ne me l'avait pas dit, je ne m'en serais même pas rendu compte.
Et c'était un collaborateur, c'est ça qui vous a dit ça
Oui, bah, je peux le dire clairement, c'était mon assistante. Et elle a tout à fait raison, parce que ce n'était pas du tout le but de lui mettre de la pression ou de lui faire croire que cet élément était urgent.
Oui. Toujours dans la communication c'est aussi savoir s'imposer, surtout en tant que directrice générale. Dans le secteur bancaire, il y a quand même peu de femmes qui sont à des postes de haute responsabilité. Est-ce que ça a été plus dur de se faire sa place ou pas forcément ?
Alors, je ne sais pas s'il faut s'imposer déjà, tiens, dans le choix des mots, je ne serais pas tout à fait d'accord. En fait, déjà, il faut avoir des résultats. Hein ? Si on est à un poste, il faut avoir des résultats, il faut emmener son équipe derrière. Alors c'est vrai que le monde de la finance, quand j'ai démarré, était très très masculin. Et moi je raconte souvent cette petite histoire que moi quand j'ai été promue directrice générale, j'étais enceinte. Et donc quand je suis arrivée à un rendez-vous à la Banque de France, c'est vrai que je faisais une femme relativement jeune qui était enceinte. Je faisais un petit peu, j'étais vraiment différente. Mais après, je trouve que ce monde bancaire a beaucoup évolué. Et si vous avez les résultats, si vous avez confiance dans vos équipes, et si vous démontrez tous les jours que voilà, vous êtes très clair sur votre stratégie.
C'est ça qui fait qu'on s'impose finalement. Enfin, peut-être pas qu'on s'impose, mais en tout cas qu'on est légitime à diriger.
Voilà, c'est ça. Et on est légitime et on a la confiance et on a les résultats. Et il y en a qui sont d'accord, pas d'accord. C'est pas grave, du moment qu'on a les résultats et qu'on avance et qu'on a une équipe soudée derrière, c'est ce qui compte.
Communiquer, c'est aussi savoir valoriser son travail, mettre en avant ce que l'on fait. Vous avez expliqué que parfois, certaines femmes avaient plus de mal à le faire que chez American Express et j'imagine peut-être ailleurs ce que vous avez pu observer. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ce qui s'est passé quand vous avez été nommée directrice générale d'American Express ?
Oui. Alors ça, c'est sûr qu'il y a, qu'on le veuille ou non, il y a un biais sur les femmes qui se mettent un peu moins en avant. Et moi, je raconte cette anecdote en effet que quand j'ai été nommée directrice générale, mon assistante justement m'a dit, écoute, il y a un certain nombre de personnes qui veulent te voir là, ils veulent prendre 10-15 minutes. Donc, je me disais, vas-y, prends-les. Et en fait, c'était 10 hommes qui étaient venus me voir pour me dire, voilà ce que je fais, voilà mon job, voilà mes compétences, juste pour se mettre sur mon radar. Et ce n'était pas du tout fait avec une mauvaise intention. C'était très bien, d'ailleurs. J'y avais même pas pensé moi-même pour mes jobs au-dessus.
Ouais.
Mais qui voulaient se mettre sur mon radar parce que maintenant que j'étais directrice générale, j'allais peut-être changer l'organisation. Et en fait, ils voulaient se faire connaître. Et ils voulaient me faire connaître leurs compétences aujourd'hui ou aussi leur potentiel, ce dont ils avaient envie. Et je l'ai dit ensuite à pas mal de femmes directrices pour leur dire, mesdames, il n'y en a aucune de vous qui est venue me voir. Mais en revanche, j'ai eu 10 hommes. Et c'est pour ça que chez American Express, du coup, on a mis un système en place qu'on appelle les high potential et on essaye justement de pousser les femmes. On se dit des talents qu'on voit qui sont managers pour qu'elles deviennent directeurs. On se met d'accord au comité de direction que voilà, ça, c'est les 5-6 talents qu'on a et qu'on veut faire progresser. Et ensuite, on s'assure qu'on les connaît et on leur donne des jobs un peu plus larges pour qu'elles soient plus exposées, elles rencontrent plus de monde et pour leur donner confiance aussi. Parfois, on va les voir, on dit, là, il y a un job qui est ouvert. Mais vas-y, postule. Et puis, si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Mais vas-y.
Et justement, qu'est-ce qu'elles devraient faire peut-être qu'elles ne font pas pour accéder, pour faire une carrière comme la vôtre, par exemple ?
Eh bien, je pense que, comme je le dis parfois, elles se disent « Non, je ne vais pas postuler, je n'ai pas toutes les compétences. » Mais un homme non plus n'a pas forcément toutes les compétences, mais il a plus confiance en lui. Donc, c'est donner cette confiance, avoir cette confiance... d'aller postuler à des jobs et de ne pas avoir peur si on vous dit non, c'est pas grave. Ça donne quand même le signe que vous avez envie de bouger, vous vous mettez en danger, etc. Donc moi, je dirais prendre plus de risques et oser un peu plus.
D'accord. Et qu'est-ce que vous conseillez, que ce soit n'importe qui, un homme, une femme, pour justement mettre en avant son travail et qu'il soit valorisé son travail ?
Donc déjà, il faut avoir les résultats. Mais une fois qu'on a les résultats, surtout si on a travaillé en équipe, je pense que les personnes avec qui on a travaillé sont de vrais ambassadeurs. Et de ne pas hésiter et de cultiver, en fait, plus on travaille dans l'entreprise, ces relations pour que plus tard, quand on a besoin de références aussi,
ouais,
on puisse dire, si vous avez besoin de références, allez contacter telle ou telle personne. Souvent, ces personnes sont peut-être montées dans l'entreprise.
Ouais.
Donc ça, c'est important parce que c'est aussi s'appuyer sur d'autres personnes qui peuvent témoigner que c'était génial de travailler avec vous. Donc le réseau est très important.
Ouais.
Et puis la deuxième chose, je dirais, c'est pas la communication pour la communication, mais c'est de dire, ben voilà, d'être clair en faisant un petit mémo. Donc voilà ce qu'on a fait, les objectifs, voilà pourquoi ça a super bien marché, les résultats concrets. Et pas de le donner à tout le monde, mais de le donner, ouais, aux personnes quand même qui étaient intéressées par ce sujet-là.
Après la communication, il y a un autre aspect important, c'est le stress, la pression, savoir gérer ce facteur-là. Il y a beaucoup de gens qui font face à ce facteur-là. Quand vous avez été nommée directrice générale, j'imagine que vous avez dû en ressentir beaucoup quand même, non ?
Ah oui, ça, le stress, même encore aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir encore du stress, mais avec les années, avec l'expérience, on apprend à mieux le maîtriser. Parce que le stress, ce n'est pas forcément négatif. Ça ouais, peut être bien justement pour se surpasser. Mais oui, le stress, j'ai appris à le travailler. Donc, j'ai plusieurs... quand j'ai beaucoup de choses dans une semaine, par exemple, plein de gros événements ou des négociations ou des éléments, je vais décortiquer ma semaine, en fait. Je vais me dire, OK, pour lundi, c'est ça. Et je vais la passer étape par étape. Ça me permet, par exemple, de la découper.
Okay.
Exactement. Ou bien... autre chose, quand j'ai beaucoup de choses... j'ai beaucoup de priorités, il y a beaucoup d'enjeux. Je me dis, OK, si cette semaine, j'avais que 4 heures, j'ai que 4 heures cette semaine,
ouais,
pour faire mes objectifs. Ces 4 heures, je les passe sur quoi ? Et donc ça me permet immédiatement de me redire, OK, si j'ai que 4 heures cette semaine, c'est ça les sujets. Donc ça me remet les priorités tout de suite au bon endroit. Et puis aussi, la nuit, s'il y a des choses qui me stressent, je l'écris sur un papier. Ou même le matin, j'écris sur un papier ce qui me stresse. Et puis en fait...
comme ça, c'est quelque part et...
Et voilà. Et ça enlève le stress.
Ouais.
Donc ça, c'est des éléments un peu tactico-tactiques.
Bonne méthode, oui, ça peut servir, effectivement. Parce que ce que j'allais vous dire aussi, c'est qu'il y a quand même une responsabilité qui est importante ici chez American Express, parce que vous devez rendre des comptes à la Banque de France. D'ailleurs, beaucoup de stress quand même.
Oui, mais encore une fois, je pense que si on est clair sur les objectifs, si on pense qu'on a les bonnes personnes autour de nous, après, voilà, il y aura toujours des obstacles. Hein. En plus, surtout dans le monde d'aujourd'hui, le monde économique d'aujourd'hui, il y a des incertitudes tous les jours, hein, qui avaient prévu la guerre en Ukraine,
oui,
l'inflation, etc. Donc après, il faut savoir bien comprendre qu'est-ce que je ne contrôle pas.
Oui.
Et c'est là. Ce que je ne contrôle pas, je n'ai pas besoin de stresser dessus. Hein. Mais qu'est-ce que je contrôle moi ? Donc ça, c'est aussi un exercice qui est peut-être très pratico-pratique, mais c'est d'avoir la liste très claire de ce qui est là et j'y peux rien.
Ouais.
Et donc du coup, d'un côté, je ne m'en soucie pas. C'est là, ça veut dire que je l'ignore, mais c'est là, j'y peux rien. Et donc du coup, me concentrer sur ce que je peux contrôler moi, ce sur quoi je peux agir.
Oui, il ne faut pas se prendre la tête sur les problèmes qu'on ne peut pas résoudre finalement.
Oui, voilà, ou des facteurs externes. Bon, il y a de l'inflation en France, ça va peut-être poser des problèmes, mais c'est un fait. Mais maintenant, c'est comment moi je gère cette inflation dans mes produits, etc.
Alors, il y a une autre thématique qui est importante, c'est l'entourage, les personnes avec qui on travaille notamment. Vous disiez là précédemment, vous disiez que le réseau, c'est assez important pour pouvoir avancer dans sa carrière. Surtout qu'ici, on travaille beaucoup en équipe, comme vous l'expliquiez. Comment se le constitue, ce réseau ? Ça se fait naturellement ou est-ce qu'il y a une démarche pour se le constituer ?
Alors non, c'est un travail. Il faut quand même y passer un peu de temps. C'est-à-dire que, donc, on part toujours du départ, il faut faire ses résultats. Et quand on travaille en équipe, c'est vraiment important sur ces projets, en fait, de nouer des relations, que ça se passe bien. Donc là, c'est le côté un peu naturel, on démarre, etc. Mais après, il faut... prendre de son temps pour garder ses relations. Et alors surtout, c'est vrai que là, moi, je vous donne l'exemple parce qu'on est dans une grosse société multinationale, donc on a des équipes un peu partout dans le monde. Mais donc, c'est vrai que ces relations, il faut les garder. Moi, j'ai travaillé sur des projets au tout début de ma carrière avec des équipes. On s'est bien amusé ensemble et on a bien réussi ensemble sur ces projets. Et puis ensuite, certains ont déménagé, étaient à Londres. Et à chaque fois que j'allais à Londres, même si je ne travaillais plus avec eux, j'allais les voir. comment ça va et qu'est-ce que tu fais, t'es sur quel job, etc. On se tenait au courant. Et puis ensuite, il se trouve que nos chemins se sont recroisés après, un peu plus tard. Et aujourd'hui, ça reste des alliés. Donc en fait, il faut quand même prendre du temps pour garder ces relations. Et ça sert aussi à l'externe, parce que parfois, quand on peut avoir des problèmes dans le monde de l'entreprise, on est un peu perdu, on se dit là, je ne sais plus vers où aller. C'est important de pouvoir s'appuyer sur ces relations pour aussi avoir un œil externe. On peut s'appuyer sur quelqu'un en interne dans l'entreprise.
Ouais.
Mais c'est bien d'avoir aussi quelqu'un qui vous connaît un peu à l'externe et qui peut vous dire, bah, tiens...
Un regard extérieur sur la situation.
Voilà, pour vous parler honnêtement, bah, écoute, ça, c'était force. Là, c'est moi, c'est peut-être des choses plus à travailler pour aussi vous donner cette vue différente, en fait.
Et vous avez encore le temps de, justement, pouvoir aller voir les personnes de votre réseau, alors que quand on est directrice générale, on doit avoir un emploi du temps assez chargé, non ?
Oui, mais par exemple, ben, quand je vais à New York pour le travail, je vais prendre dans ma journée une demi-heure, nous on fait beaucoup de meetings d'une demi-heure, pour aller dire bonjour à telle personne et tout. Donc, je vais le construire dans mon agenda. Je resterai peut-être un jour de plus s'il le faut. Mais je vais le construire dans mon agenda. Parce que ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps. Et souvent, je vais apprendre des choses d'ailleurs dont ils sont au courant, qui vont pouvoir me servir pour mon job, etc. Donc, en fait, c'est vraiment important.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté avec du recul sur votre carrière ?
Ben, le réseau, c'est ça. À un moment donné, à chaque fois que je me posais des questions, est-ce que je change, est-ce que je prends ce job, d'avoir cette vue honnête, on va dire, de quelqu'un qui n'a pas d'enjeu avec vous, il n'y a pas de compétition, etc. Et qui puisse vous dire, bah oui, ce job, il est super pour toi. Ou voilà, dans cette équipe, voilà un peu les challenges. Et de savoir, ça m'a permis à chaque fois de prendre les postes plus sereinement, en fait. Ou en tous les cas, d'avoir toutes les informations.
Ouais.
Enfin, toutes les informations, le plus d'informations possible pour prendre ma décision.
Ok. Dans un autre podcast qui s'appelle « C'est qui la bosse ?» que vous aviez fait précédemment, vous avez expliqué qu'il fallait avoir des personnes de confiance près de soi. Comment vous faites justement pour choisir ces personnes et pour vous entourer quand vous êtes directrice générale ou même avant avec vos équipes ?
Alors en fait, quand on a une équipe, donc on ne choisit pas forcément son équipe. Mais bon, je dirais qu'il y a deux cas. Il y a le cas où quand on choisit les personnes, ça peut être des personnes avec qui vous avez travaillé par le passé, et vous savez que ces personnes, eh ben, elles vont vous dire ce qui ne va pas. Parce que ça, c'est hyper important d'avoir la clarté, surtout plus vous montez, sur qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas, et pas qu'on vous dise oh, « tout ce que tu fais, c'est bien ». Parce que ça, ce n'est pas comme ça que vous allez vous améliorer. Donc, soit vous avez la chance de construire votre équipe et vous pouvez aller vous poser sur des personnes avec qui vous avez déjà travaillé, donc vous avez déjà eu cette expérience.
D'accord.
Soit votre équipe, elle est là, parce que parfois, vous arrivez dans des postes et l'équipe est là. Et en fait, il faut la construire, cette confiance. Donc, il faut démontrer, parce que ça ne se décrète pas, la confiance. Donc, en fait, c'est à vous de démontrer, ben voilà, tiens, regarde là, j'ai hésité sur ce point-là, pour montrer aussi que ben, ce n'est pas vous qui avez forcément tout le savoir et que vous valorisez ce que les personnes peuvent penser. Donc, c'est à vous de montrer d'abord que vous donnez cette confiance. Et ensuite, progressivement, moi, je dis toujours à mes équipes, ne me dites pas si on a raté une campagne, ne me dites pas, ah oui, on l'a gagné, mais pas tout à fait. Non, on l'a raté ou on l'a réussi. Parce qu'encore une fois, si on ne sait pas, si on ne reconnaît pas ses erreurs, on ne va pas pouvoir les corriger.
Ouais.
Et on va refaire la même erreur. Donc, c'est très, très important d'être très clair sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas ou d'avoir des personnes qui vous le disent. Et donc, ça... Pour ça aussi, parce qu'il peut y avoir peut-être un peu de la peur, plus peut-être d'ailleurs dans la culture française que dans la culture anglo-saxonne.
Quand on mène une équipe, c'est ça ?
Oui, la peur de dire « Ouh là là, ça n'a pas marché, je vais... » Dans ce sens-là, en fait, parfois la transparence sur les résultats n'est pas là parce que vous avez un cadre de management qui fait que c'est sanctions immédiatement, etc. Donc, il faut aussi pouvoir avoir un cadre de management que nous, on a dans la culture américaine et qu'on a chez American Express, qui est que, non pas qu'on célèbre l'échec, mais quand même, au moins, on célèbre quand on a dit, voilà, ça ne marche pas, ou on a tel problème, et qu'on se concentre sur les solutions.
Et justement, comme vous êtes issu d'une culture plutôt anglo-saxonne, vous avez travaillé 6 ans à Londres et puis après à Dublin pendant ces 6 ans. Qu'est-ce qu'on peut apprendre justement de cette culture anglo-saxonne qui peut-être n'est pas assez faite en France notamment ?
Alors moi, je dirais deux choses que je vois d'ailleurs à travers mes enfants, qui est entre l'école britannique anglo-saxonne et l'école française, c'est que de s'amuser. Quand on apprend mieux en s'amusant, on réussit mieux en s'amusant. Donc ce côté très strict, le côté un peu de l'intelligence émotionnelle en fait, dont on parle un peu, qu'il y a les compétences, l'expertise qui sont importantes, mais il faut aussi le lier avec le travail en équipe et ce côté un peu émotionnel, c'est important. On apprend mieux et on réussit mieux dans un cadre, on va dire. Je dis pas qu'il faut avoir du fun tout le temps, mais il faut un cadre quand même où on se prenne pas au sérieux tout le temps. C'est ça que je veux dire. Donc ça c'est une première chose. Et ce qu'on apprend surtout, c'est dans la culture anglo-saxonne, c'est que l'erreur, c'est positif. L'échec, c'est positif. C'est parce qu'on a fait des échecs. Et souvent, on rencontre des dirigeants. Ils vont pas vous demander, comme moi, on m'a fait quand je rentrais en France, c'est quelle école t'as fait, etc. Ben voilà, j'ai eu cette carrière, j'ai raté ou j'ai viré, je suis passée à autre chose. Et donc, l'échec est vécu comme un tremplin positif.
Ouais.
Et donc, cette culture de, même à l'école, j'ai raté, mais en fait, je rebondis ensuite parce que j'ai appris quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'il faut développer plus, me semble-t-il, en France, dans le monde global, en fait.
L'entourage, donc on en a parlé là, on continue à en parler. Ce sont aussi, il y a les collègues de travail d'un côté, il y a aussi les amis, l'entourage proche. Avant que vous ne dirigiez American Express, même que vous n'entriez chez American Express, vous aviez une possibilité d'être directrice générale au Portugal chez Sopexa, donc une agence de communication et de marketing.
Oui.
Et vous aviez dit que finalement... dans le regard des autres, vous aviez un peu, c'était un peu moins bien parce que le poste était moins prestigieux du côté d'American Express que du côté de chez Sopexa. Comment on fait pour les gens, par exemple, qui doivent prendre des décisions à un certain moment et qui vont peut-être aller dans une entreprise qui est un peu moins bien perçue par le grand public, mais peut-être dans laquelle ils se sentiront un peu mieux. Comment on fait pour gérer ce regard des autres dans ces moments-là?
Alors moi, je dirais que déjà, on passe beaucoup de temps au travail, donc il faut qu'on aime ce qu'on fait. C'est pas tous les jours facile, même quand on aime ce qu'on fait. Donc, moi, mon conseil, c'est de pas de chercher la promotion pour la promotion. Et en effet, quand j'ai eu ce moment où j'avais été 6 ans à l'étranger et qu'on m'a proposé un poste toujours dans un autre pays étranger, et que finalement j'ai choisi de rentrer en France et de rentrer chez Amex, à un job qui était, j'avais plus d'équipe, j'étais manager, alors que de l'autre côté, on allait me confier. Une direction d'un petit pays, hein, mais quand même, j'ai pas hésité une seule seconde parce que j'avais envie en fait de rentrer en France, j'avais envie d'une autre expérience. Donc moi je dirais, il faut se sentir à l'aise en ligne avec son ADN en fait de ce qu'on a envie de faire, parce qu'après vous allez rebondir. Donc là le regard des autres, oui, il m'avait pris un peu pour une folle en me disant mais comment tu vas prendre un job plus bas, parce que c'était vraiment ça. Et c'était ça. Mais oui, mais c'est juste en ce moment donné. Et parce que j'en avais envie. Et parce qu'après, de toute façon, je savais que j'allais rebondir et que j'allais faire autre chose. J'avais pas imaginé, quand je suis rentrée chez Amex en manager, enfin en chef de produit, que je serais un jour DG. Ça s'est fait par la suite. Mais du coup, je dis, ayez confiance en vous. C'est le plus important. Et si vous êtes bon dans ce que vous faites, vous trouverez votre chemin. Hein.
Oui, il n'y a pas de raison qu'après, l'évolution ne soit pas positive.
Exactement. Et puis après, il n'y a pas que des évolutions verticales. Il y a des gens qui adorent ce qu'ils font, qui sont très bons et qui peuvent aussi grossir avec des postes en latéral, en fait. Donc,
c'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire qu'on regarde toujours le niveau au-dessus. Mais moi, je considère qu'en rentrant chez Amex en chef de produit, j'étais pas DG, en effet, j'étais un chef de produit, mais que j'avais d'autres choses à apprendre, en fait, pour développer mes compétences.
Oui, donc il ne faut pas forcément viser toujours... le poste d'au-dessus, mais il faut aussi déjà apprécier ce qu'on fait, c'est ça?
Oui, et ou aller chercher des jobs ou des compétences qu'on n'a pas, aussi sur le côté. Enfin, c'est-à-dire qu'on regarde souvent l'échelle en haut, mais parfois ça peut être un escalier.
Oui.
Voilà,
oui.
C'est ça en fait. Et il n'y a pas de chemin parfait en fait.
Et justement, vous aviez dit aussi qu'il faut chercher à faire grossir, entre guillemets, son poste, à l'enrichir.
Oui.
Ça veut dire quoi concrètement, vous, dans votre parcours, comment ça s'est traduit?
Eh bien parce que, par exemple, quand j'ai eu des postes chez American Express, ça avait une définition, par exemple, sur le recrutement des cartes. Et puis ensuite, j'ai vu d'autres opportunités pour attirer des prospects. Et donc, j'ai fait des propositions en disant, OK, donc là, bien sûr, je suis en train d'acquérir des nouveaux prospects par ce canal-là. Mais je me suis dit, tiens, on pourrait tester ça, on pourrait le faire ça. Donc, je suis allée voir mon boss, je lui ai dit, tiens, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ça? Je me dis qu'il y a une opportunité. Et puis, mon boss m'a dit, vas-y. Et puis, voilà, on y est allé, on a réussi. Et puis, on a réussi à acquérir encore plus de prospects. Donc, c'est dans ce sens-là d'être curieux et de ne pas hésiter. Au pire, elle m'aurait dit non. Et ben voilà, ouais. Tant pis. Mais en fait, ça a marché. Et puis après, du coup, on a développé toute une équipe. Sur ce sujet-là, et on a grossi encore plus fortement. Donc, c'est dans ce sens-là de faites bien votre job, mais surtout, si vous avez des idées qui rentrent dans la stratégie, allez les proposer, quoi. Et puis après, testez, et puis à vous de démontrer que ça marche. Mais c'est dans ce sens-là.
On va parler maintenant organisation, c'est un sujet important aussi. Vous, à titre personnel, comment vous équilibrez votre vie professionnelle qui est bien remplie et votre vie personnelle?
Alors là non plus, je n'ai pas une baguette magique, mais c'est vrai que chez American Express, on a la chance de ce qu'on appelle le powerful backing. Donc, on fait attention justement à cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle. On faisait déjà un peu de télétravail avant le Covid, étant une société multinationale. Et là, après le Covid, nous, on a lancé ce qui s'appelle Amex Flex, où en fait, on laisse le choix à nos collaborateurs de venir donc, les jours qu'ils veulent au bureau. Ils peuvent faire jusqu'à 3 jours de télétravail.
Par semaine.
Donc, moi, je viens personnellement le lundi, mardi, jeudi, je suis toujours au bureau. Mercredi, vendredi, quand je peux, parce qu'évidemment, si j'ai une réunion, j'irai ou là où il faut que j'aille ou en voyage, mais j'essaye quand je peux le mercredi et le vendredi d'être à la maison. Et ça, c'est un vrai, ce mode hybride, c'est vraiment bien parce que moi, par exemple, ben voilà, tous les vendredis matin, j'essaye d'être à la maison et je vais avec ma fille à l'école à pied. Donc, on se fait notre petit 15 minutes à pied, on va et on revient. Et ben ça, c'est pour moi, c'est une soupape de, voilà, d'essayer d'équilibrer. Ouais. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de chance avec ce modèle hybride. J'essaye de pas trop travailler le week-end. Ouais. Donc, en général, mais en revanche, ça m'arrive dans la semaine de... parce que j'ai des choses importantes, de commencer à travailler de 6h30 à 7h30. Puis après, moi, j'ai des enfants quand même encore en bas âge, donc je me lève, etc. Puis après, je vais au travail. Donc, je trouve que ce modèle hybride, il est quand même fantastique parce qu'il permet de mieux équilibrer la vie personnelle et vie professionnelle. Et nous, étant en société américaine aussi, j'ai souvent des calls tard le soir.
Ouais, d'accord.
Donc, de les faire de la maison, c'est quand même plus pratique que de rentrer à 9h du soir du bureau.
Sur les mails aussi, qui est une thématique importante, une problématique que beaucoup de personnes rencontrent. Comment vous le gérez, vous? Parce que les directeurs généraux ont, j'imagine, beaucoup plus de mails en plus qu'un collaborateur normal, alors que déjà les collaborateurs normaux en ont beaucoup aussi.
Oui. Alors là non plus, hein, je ne vais pas vous dire que je suis parfaite, mais en tous les cas, j'ai quand même des petits trucs dans le sens où... Moi, je ne regarde pas mes mails. Enfin, déjà, j'ai beaucoup de réunions. Donc, je me mets des plages où je regarde mes emails.
D'accord.
D'accord. Donc, par exemple, ça peut être, à titre d'exemple, allez, lundi de 9 à 10, là, je vais regarder mes emails. Mais après, je vais me concentrer sur mes réunions. Parce que si je laisse mes emails qui arrivent sans arrêt, je vais être, en fait, je vais répondre au plus rapide. Donc, je n'ai pas mes priorités. Donc, on en revient au point de quelles sont mes priorités de cette semaine, ce sur quoi je dois vraiment travailler. Et c'est dans ce sens-là que les emails, je vais essayer de les regarder que par moment. Alors bon, moi c'est vrai qu'en ce moment ça m'arrive plus de les regarder en fin de journée, le soir, mais pas du tout pendant toute la journée parce que là vous contrôlez plus rien. Donc ça, je dirais attention aux équipes, vous laissez pas driver par vos emails, c'est-à-dire ne laissez pas vos emails ouverts toute la journée parce que vous allez avoir sans arrêt des distractions.
Ouais.
Donc essayez d'avoir des plages horaires pendant 2 heures et puis après tout est urgent dans le monde de l'email, mais ça peut attendre 24 heures, 1 heure, etc. Ouais. Et puis aussi de les trier selon les personnes, les projets, parce que s'il y a des projets importants sur lesquels vous travaillez, bah, si vous savez que ces personnes, vous regardez ces emails-là en priorité.
Alors c'est maintenant le moment où on va faire un petit retour en arrière sur une période où vous étiez plus jeune, quand vous travailliez notamment à Londres et puis après à Dublin. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné sur votre parcours, lors de votre parcours, s'il y en a un à ressortir?
Oui, le meilleur conseil, ben c'est vrai que d'avoir travaillé à l'étranger, moi c'est ce que j'espère pour mes enfants, mon premier job en fait, ça m'a donné énormément confiance en moi parce que J'étais en Irlande, je parlais encore l'anglais, mais pas vraiment super bien. Dans l'agroalimentaire, je ne connaissais pas grand-chose. Mais c'était le fait qu'il me faisait confiance, en fait, qu'il me disait, mais vas-y, tu vas apprendre. Et tu as pu faire les dés qu'il ne connaissait pas, Dauphine, il ne connaissait pas. Il s'en fichait des études, en fait. Je ne dis pas que les études ne sont pas importantes, mais ce n'était pas ça le critère. C'était ma capacité à démontrer que j'apprenais, en fait, et à vouloir réussir. Et donc, ça... Je dirais, quand vous démarrez, ayez confiance en vous et soyez curieux, quoi. Allez-y, lancez-vous et apprenez. Que vous ayez fait une école ou pas, mais allez-y.
Et justement, alors, du coup, vous l'avez donné précédemment. Durant votre parcours aussi, vous aviez expliqué que vous aviez un mentor. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Qu'est-ce que cette personne-là vous a apporté pendant votre parcours?
Oui, bah c'est d'avoir cette vision un peu authentique de quelqu'un qui vous suit de loin et qui peut vous dire « attention, il faut que tu travailles ce point-là, ça peut être... Parce que qu'on le veuille ou non, quand tu es dans le monde de l'entreprise, on a une image.
Ouais.
Donc on a une image de ses résultats, mais on a aussi une image sur comment on communique ou une image comment on interagit avec les gens. Quand j'ai démarré dans ma carrière, j'étais peut-être un peu trop spontanée et directe.
D'accord.
Et ce n'était pas tant... voulu avec une mauvaise intention de vouloir être aussi direct. C'était dans le sens de donner de la transparence, parce que c'est vraiment quelque chose d'apprécié. Mais parfois, ça pouvait être perçu peut-être un peu trop négativement. Donc, c'est quelque chose que...
Est-ce que vous avez peut-être un exemple pour qu'on comprenne bien?
Oui, bah, de dire directement, en fait, ça, c'était pas bien, quoi. Enfin, ça, c'était nul,
ouais.
Quoi. Cette campagne, c'était nul. Et donc, les gens qui ont travaillé dessus... et qui reçoit ce message, ils peuvent se le prendre quand même...
négativement.
Voilà, négativement. Et donc, c'était plutôt de comment on le formule pour s'assurer qu'on embarque tout le monde en disant, ben voilà, si l'objectif de la campagne, c'était tel résultat, est-ce qu'en fait, on l'a atteint? Ah non, ben alors pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et donc, la façon dont on le présente, c'est bien d'être transparent. Voilà, on revient à ce point-là, c'est bien d'être transparente, mais de faire attention. Et donc, on m'avait dit au début de ma carrière, c'est une force d'être transparent, mais attention comment on embarque les autres.
D'accord. Ouais.
Voilà, donc c'était dans la communication en fait.
On va finir avec la dernière partie de ce podcast. Est-ce qu'il y a un livre qui vous aide au quotidien, que vous avez peut-être lu plus jeune, qui vous a aidé dans votre parcours?
Alors oui, il y a un livre qui s'appelle justement « L'intelligence émotionnelle ». De Goleman, et qu'on m'avait donné quand j'étais en Irlande. Donc je venais de démarrer ma carrière, et encore une fois, qui montre la force des anglo-saxons, je pense, dans le mode de comment on manage des équipes, comment on lead des équipes. Et c'est quelque chose de très connu maintenant, mais qui est entre l'intelligence, le quotient intellectuel, ce qu'on appelle le IQ, et puis l'intelligence émotionnelle, ce qu'on appelle le EQ, E-E-Q en anglais. Et qui montre que pour réussir et pour embarquer des équipes et pour avoir des résultats, bien sûr, il faut l'expertise.
D'accord.
Mais si on n'a que l'expertise, ça ne marche pas. Parce que donner du sens, faire sentir aux gens qu'on est ensemble dans un projet, qu'on va réussir ensemble, donc tout ce qui est de l'empathie, le feedback, les relations humaines qu'on peut avoir, c'est aussi important pour amener les équipes avec soi. Donc ce livre, en 99, on me l'avait donné, je n'avais pas trop compris, mais quand je vois maintenant aujourd'hui, et d'ailleurs, je pense que tous les gourous du management, du leadership en parlent aujourd'hui, de l'importance d'avoir les deux.
D'accord.
En fait.
Donc, avec du recul, vous vous rendez compte peut-être mieux de la pertinence de ce livre, c'est ça?
Exactement.
Ouais. Est-ce que vous avez aussi peut-être une phrase ou une citation qui vous guide un peu, qui vous ressemble?
Alors, j'en ai deux. Qu'on donne souvent. La première, c'est celle que je donne souvent aux équipes et d'ailleurs qui n'est pas la mienne, qui est celle de notre ancien PDG d'American Express, Ken Chenow, et qui disait en anglais « Define reality but give hope », donc c'est-à-dire, qui vient de Bonaparte, en fait, c'est en tant que leader d'une équipe ou d'une entreprise, c'est définir la réalité, mais donner l'espoir, en fait, montrer où est-ce qu'on veut aller. Donc ça, je trouve ça, c'est super dans cette idée de transparence. Voilà nos forces, voilà ce sur quoi on doit s'améliorer. Mais on a un plan, donc on est confiant, on va y arriver. Et la deuxième, elle est sur le futur. À chaque fois, je vais regarder comment elle s'appelle. C'est celle de Abraham Lincoln, voilà. C'est « The best way to predict the future is to create it ». Qui est génial, ça, c'est sur cette idée que... le futur, ben, c'est dans nos mains. Il faut qu'on soit acteur, donc à nous de le prédire, à nous de le faire.
Ultime question de cette interview, c'est quoi une patronne pour vous, Caroline Gaye?
Alors une patronne, c'est plein de définitions, mais je dirais quelqu'un qui arrive à donner du sens à toutes les équipes dont elle s'entoure, pour qu'ensemble on gagne et on y arrive, et qui permet justement à ce que le projet qui est porté, en fait, il soit porté par tous. En fait, il soit le projet de tous. On est vraiment ensemble dans cette bataille. Donc, un patron, c'est celui qui, pour moi, arrive bien à définir quel est ce projet, quel est son sens et comment chacun a un rôle à jouer dans ce projet-là.
Merci beaucoup, Caroline Gaye. Et puis, merci à vous d'avoir écouté La Méthode des Patrons. N'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le partager et à nous faire vos retours également sur les réseaux sociaux. À très vite.